Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous continuons donc nos lectures en liberté en ce début de semaine et je vous propose de démarrer ce soir la lecture d'un roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Ce roman a obtenu le prix Médicis en 2017. Première partie des films. Le daim blanc. À cette époque, j'étais fou. J'avais dans mes valises un scénario de 700 pages sur la vie de Melville, Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, le plus grand écrivain américain, celui qui, en lançant le capitaine Ahab sur les traces de la baleine blanche, avait allumé une mutinerie aux dimensions du monde et offert à travers ses livres des tourbillons de prophéties auxquels je m'accrochais depuis des années. Melville, dont la vie avait été une continuelle catastrophe, qui n'avait fait à chaque instant que se battre contre l'idée de son propre suicide, et après avoir vécu des aventures fabuleuses dans les mers du Sud et connu le succès en les racontant, s'était soudain converti à la littérature, c'est-à-dire à une conception de la parole comme vérité. Et avait écrit Mardi, que personne n'avait lu, puis Pierre ou les ambiguïtés, que personne n'avait lu, puis Le grand escroc, que personne n'avait lu, avant de se cloîtrer pour les 19 dernières années de sa vie dans un bureau des douanes de New York et de déclarer à son ami Nathaniel Hawthorne « Combien même j'écrirai les évangiles en ce siècle, je finirai dans le ruisseau. » J'étais fou peut-être, mais j'avais écrit ce scénario pour faire entendre ce qui habite la solitude d'un écrivain. Je savais bien qu'une telle chose échappe à la représentation. Personne n'est capable de témoigner pour la pensée de quelqu'un d'autre, parce que la pensée existe précisément hors témoin. Pourtant, c'est ce que j'avais tenté de faire entendre dans mon scénario, la pensée de Melville, la population de sa pensée. Cette population de pensée est un monde, et même les livres écrits et publiés par Melville ne suffisent pas à donner une idée de l'immensité qui peuple la tête d'un écrivain comme lui. D'ailleurs, il y a une phrase de Moby Dick qui évoque ce débordement. À propos du cachalot, elle parle de l'intérieur mystiquement alvéolé de sa tête. Eh bien, c'est précisément de cela que traitait mon scénario. L'intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville. J'avais conscience, en discutant avec des producteurs, qu'il n'était pas facile de se représenter le sujet de mon scénario. Et lorsqu'à un moment donné de la conversation, l'un d'eux finissait par dire « Mais de quoi ça parle ?» J'aimais beaucoup dire que ça parlait de ça, l'intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville. Était-ce le mot « mystiquement » ou le mot « alvéolé » qui provoquait leur stupeur? Aucun producteur, bien sûr, ne donnait suite, mais je ne me décourageais pas. Lorsqu'on agit contre son propre intérêt, lorsqu'on se sabote, c'est toujours par fidélité à une chose plus obscure dont on sait secrètement qu'elle a raison. Après tout, ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. Et puis, à l'époque, je ne cherchais pas tellement à plaire, ni même à être reconnu. Ce que je cherchais, c'était quelqu'un qui ne ricane pas quand on lui parle de l'intérieur mystiquement alvéolé d'une tête. Quelqu'un qui ne me regarde pas comme si j'étais fou, même si je l'étais. Quelqu'un qui n'ait pas envie de tapoter sur son téléphone ou de penser à son prochain rendez-vous en faisant mine de m'écouter. Quelqu'un qui, si l'on prononce devant lui ces mots, l'intérieur mystiquement alvéolé d'une tête, se contente de sourire parce que ces mots lui plaisent ou parce qu'il voit très bien de quoi il s'agit. Mais ce quelqu'un, s'il existe, ne pouvait qu'avoir lui-même l'intérieur de la tête mystiquement alvéolé. Bref, j'étais seul. Et le grand Melville était en train de rejoindre l'immense troupeau des scénarios abandonnés. Il existe quelque part une steppe couverte de poussière et d'os. On dirait un ciel, on dirait la lune, où sont stockés les scénarios en exil. Possible qu'ils attendent un peu éteints déjà le regard d'un acteur, d'une actrice, d'un producteur, d'un metteur en scène. Mais en général, leur solitude est sans appel. Et la poussière efface peu à peu leur clarté. La plupart de mes amis trouvaient ce scénario insensé. Ils trouvaient que c'était insensé de ma part de consacrer mon temps à un projet aussi peu crédible. Selon eux, il ne viendrait à personne l'idée de faire un film à partir de ce scénario. Personne n'aurait jamais envie de voir la vie d'un écrivain qui échoue. Et d'ailleurs, mes amis n'avaient pas envie de me voir moi-même échouer à cause de cette histoire. Selon eux, il aurait été plus judicieux que j'écrive un livre sur Melville. Par exemple, une biographie, mais pas un scénario. Le scénario, c'est la mort de l'écrivain, me disait-il. Le moment où les écrivains se mettent à rêver de cinéma est précisément celui qui marque leur mort en tant qu'écrivain. Le signe de la ruine pour un écrivain, ruine financière et surtout ruine morale, ruine psychique, ruine mentale, c'est lorsqu'il se met en tête d'écrire un scénario. Ah oui, mais moi, le scénario, je l'avais déjà écrit. Je n'avais plus rien à craindre. Quelle ruine pouvais-je redouter ? J'avais écrit des romans. J'en écrirai encore. J'avais 1000 idées de romans en tête, mais d'abord je voulais vivre l'aventure de ce scénario jusqu'au bout. Je tenais au grand Melville, je tenais à parler de la solitude de l'écrivain et du caractère mystique de cette solitude. Je voulais faire entendre ce qu'il y a à l'intérieur d'une tête mystiquement alvéolée. Car les gens, et même mes amis, voient les écrivains comme de simples raconteurs, éventuellement comme de bons raconteurs, qui ont éventuellement des idées singulières, voire passionnantes, sur la vie et la mort. Sauf qu'un type dont l'intérieur de la tête est mystiquement alvéolé, en général, il trouve ça exagéré. Bref, à l'époque, tout le monde pensait précisément cela, que j'exagérais. Je ne faisais rien pour convaincre qui que ce soit du contraire. J'avais mon idée fixe. Car bien sûr, le grand Melville, The Great Melville, était un film impossible. Mais justement, l'impossible était le sujet du scénario. Au fond, un écrivain, un véritable écrivain, Melville est aussi Kafka, me disais-je, ou Lowry, ou Joyce. Oui, Melville, Kafka, Lowry, Joyce. Très exactement ces quatre-là. Et je répétais leurs noms à mes amis et aux producteurs que je rencontrais. Un véritable écrivain est quelqu'un qui voue sa vie à l'impossible. Quelqu'un qui fait une expérience fondamentale avec la parole, qui trouve dans la parole un passage pour l'impossible. Quelqu'un à qui il arrive quelque chose qui n'a lieu que sur le plan de l'impossible. Et ce n'est pas parce que cette chose est impossible qu'elle ne lui arrive pas. Au contraire, l'impossible lui arrive parce que sa solitude, c'est-à-dire son expérience avec la parole, est telle que ce genre de choses inconcevables peut avoir lieu et qu'elle a lieu à travers les phrases, à travers les livres qu'il écrit, phrases et livres qui, même s'ils ont l'air de parler d'autre chose, ne parlent secrètement que de ça. Un écrivain, me disais-je à mes amis, ainsi qu'au rare producteur avec qui je réussissais à obtenir un rendez-vous pour parler de The Great Melville, un écrivain, Melville et aussi Kafka ou Hölderlin, Walser ou Beckett, car je variais ma liste. Un écrivain est quelqu'un dont la solitude manifeste un rapport avec la vérité et qui s'y voue à chaque instant, même si cet instant relève de la légère tribulation, même si cette vérité lui échappe et lui paraît obscure, voire démente. Un écrivain est quelqu'un qui, même s'il existe à peine aux yeux du monde, sait entendre au cœur de celui-ci la beauté en même temps que le crime, et qui porte en lui avec humour ou désolation, à travers les pensées les plus révolutionnaires ou les plus dépressives, un certain destin de l'être. Je dois dire que lorsque je prononçais ces mots « destin de l'être », même mes amis les plus bienveillants semblaient découragés. Sans doute y voyait-il une présomption délirante. Mais qu'y a-t-il de plus simple et de plus compliqué, bien sûr, que l'être ? Qu'y a-t-il de plus important que d'engager sa vie dans l'être et de veiller à ce que chaque instant de sa vie dialogue avec cette dimension ? Car alors nous n'avons plus seulement une vie, mais une existence. Nous existons enfin. Je me disais qu'un écrivain, du moins Melville, ou Hamsun, ou Proust, ou Dostoïevski, je fais beaucoup d'efforts pour varier ma liste, est quelqu'un qui fait coïncider son expérience de la parole avec une expérience de l'être, et qu'au fond, grâce à sa disponibilité permanente à la parole, à ce qui vient quand il écrit, il ouvre son existence tout entière, qu'il le veuille ou non, à une telle expérience. Que celle-ci soit illuminée par Dieu ou au contraire par la mort de Dieu, qu'elle soit habitée ou désertée, qu'elle consiste à se laisser absorber par le tronc d'un arbre ou par des sillons dans la neige, à s'ouvrir au cœur démesuré d'une femme étrange ou à déchiffrer des signes sur le mur, elle porte en elle quelque chose d'illimité qui la destine à être elle-même un monde et donc à modifier l'histoire du monde. Je me perdais un peu dans ma démonstration, mais je ne perdais pas de vue une chose, la plus importante pour moi. À travers Melville, s'écrivait quelque chose du destin de l'être. La preuve, c'est que sa tête était mystiquement alvéolée.
À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils prospère sous l'armoire allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc?
Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait propre? Voilà pépé, voilà pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon.
La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole.
À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé.
Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau.
Le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos.
Il jette l'animal sur la table.
Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu. Il dit d'une voix lamentable:
dépêchez-vous de la dépêcher. J'ai faim, j'ai soif, je veux manger.
Il a faim, il a soif, il veut manger.
Mais voici Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus.
Et pourquoi donc je dépêcherai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part.
Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare.
Et se précipitant sur le père, elle transperce le père en bas.
Dit le cousin à Gaston,
ça me rappelle la chasse aux papillons.
Et voilà,
et voilà,
voilà Prosper qui prépare les faire-part. La mère qui prend le deuil de son pauvre mari.
Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit.
Soudain, elle s'écrie:
et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile?
Maintenant les autres vont me pourchasser en mode que dire,
et puis ils vont exterminer toute ma petite famille.
Alors éclatons d'un rire inquiétant.
Elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant:
madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez.
La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la.
Dans une quinzaine d'années, sans doute,
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Je me souviens d'une amie qui prétendait que l'absolu n'est qu'une illusion, une manière de se monter le bourrichon, comme dit Flaubert. Elle citait Flaubert. Selon elle, Melville, avant d'être éventuellement le saint que j'imaginais, était surtout un type normal avec sa routine, ses fatigues et ses emportements. Un type adossé à un mur qui ne faisait que spéculer sur l'existence d'un trou dans ce mur. Elle avait raison. Mais moi, cette spéculation, ce trou dans le mur, même infime, ça me suffisait. Il me suffisait de penser qu'il y a un trou dans le mur pour que le mur ne m'intéresse plus et que toutes mes pensées se destinent au trou. Celui ou celle qui un jour a vu un trou dans le mur ou qui l'a simplement imaginé est voué à vivre avec cette idée du trou dans le mur, et il est impossible de vivre avec cette idée du trou dans le mur sans lui consacrer entièrement sa vie. Voilà ce que je disais à cet ami, ce que je répétais à la plupart de mes amis et aux producteurs qui faisaient mine de s'intéresser à ce scénario que j'avais appelé, en anglais, « The Great Melville ». Alors voilà. Un jour, j'avais entendu une phrase de Melville qui disait qu'en ce monde de mensonges, la vérité était forcée de fuir dans le bois comme un daim blanc effarouché. Et j'avais pensé à ce film de Michael Cimino, qu'on appelle en France « Voyage au bout de l'enfer », mais dont le titre original est « The Deer Hunter ». C'est-à-dire le chasseur de daims. Dans ce film qui porte sur la guerre du Vietnam, où de longues scènes de roulette russe jouées par Christopher Walken donnent à cette guerre absurde la dimension d'un suicide collectif, le chasseur, joué par Robert De Niro, poursuit un daim à travers les forêts du nord de l'Amérique. Lorsqu'enfin il le rattrape, lorsque celui-ci est dans son viseur, il s'abstient de tirer. Comme dans certaines légendes, comme dans l'histoire de Saint-Julien l'Hospitalier où le grand cerf désarme le sacrificateur. Le daim épargné par De Niro dans le film de Cimino est le survivant d'un monde régi par le crime. Il témoigne d'une vérité cachée dans le bois, de quelque chose qui déborde la criminalité du monde et qui, en un sens, lui tient tête. L'innocence qui échappe à une Amérique absorbée dans son suicide guerrier. Car le daim, en échappant au sacrifice, révèle avant tout ce qui le menace, c'est-à-dire le monde devenu entièrement la proie d'un sacrifice. Cet après-midi-là, je me suis dit, ce daim, c'est Melville. C'est Melville Kafka Lowry Joyce, ou Melville Oderlin Walser Beckett, ou encore Melville Hamsun Proust Dostoïevski. C'est le destin de la littérature, son incarnation mystique, peut-être même sa tête alvéolée. J'étais dans ma voiture avec la radio allumée. Et c'est en écoutant France Culture que j'avais entendu Tiphaine Samoyo, un écrivain que j'aime, citer cette phrase de Melville à propos de la vérité qui doit fuir dans le bois comme un daim blanc effarouché. Elle expliquait très brillamment que cette conception de la vérité était proche de celle des Grecs et de ce que Parménide nommait l'aletheia, la vérité comme voilement-dévoilement. La vérité n'est pas un concept immuable. Elle apparaît et disparaît. C'est une épiphanie. Elle n'existe qu'à travers l'éclair qui la rend possible. J'étais absolument passionné par ce que j'entendais. Et dans ma tête, avec tous les noms qui ne cessent d'y galoper nuit et jour et ne cessent de former des rapports, voici qu'un daim blanc s'était mis à traverser les kilomètres de forêt sur lesquels mes pensées nuit et jour se concentrent. Ma tête est une forêt de noms propres, d'où ma fatigue. En même temps qu'Odin qui apparaît dans The Deer Hunter de Cimino et qui semble en s'immobilisant face à Robert De Niro exposer la vérité même de la folie des hommes, j'ai pensé au cavalier polonais de Rembrandt qu'on voit à New York à la Frick Collection. Sans doute à cause de la blancheur effarouchée du cheval arrêté au milieu des ténèbres, comme si la guerre était suspendue quelques instants et qu'à la place de l'hécatombe surgissait en un bref éclair la lumière de la vérité. Mais si je commence à vous parler de tout ce qui me vient, si je vous détaille toutes mes pensées et comment et pourquoi elles m'arrivent, si je vous parle de leur simultanéité, cette histoire n'en finira plus. Michael Cimino. Quelques heures plus tard, tandis que vers 3 heures du matin, j'errais dans l'appartement en quête d'un reste de vodka, ouvrais et refermais le frigo en pestant contre le fait qu'il n'y avait jamais rien à manger chez moi et que j'allais devoir une fois de plus sortir en pleine nuit pour engloutir un Big Mac au McDonald's de la porte de Bagnolet. J'ai pensé avec une simplicité qui aujourd'hui encore me paraît extravagante qu'il fallait que je donne à lire The Great Melville à Michael Cimino. Oui, il fallait absolument que Cimino lise mon scénario. C'était une évidence. Entre Melville et Cimino, il y avait un rapport absolument crucial, décisif même. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Il fallait que Michael Cimino lise The Great Melville, parce qu'il incarnait dans le cinéma américain ce que Melville avait incarné dans la littérature américaine. Il était le dernier grand metteur en scène américain, le seul peut-être à avoir porté ces 30 ou 40 dernières années un monde qui était à lui seul une expérience. Et ce monde, cette expérience, c'était le secret de la fondation de l'Amérique, son destin criminel. Le génocide des Indiens, la démence de l'impérialisme militaire au Vietnam et tous les crimes sur lesquels était fondée en secret la démocratie. Oui. Cimino à travers ses films, The Deer Hunter, mais aussi Heaven's Gate, la porte du paradis, et même The Sun Chaser, explorait l'échec du rêve américain. La manière dont cette nation, faite de toutes les nations, cette terre d'émigrés qui promettait de devenir le pays de tous les immigrés, une sorte d'utopie des minorités, telle que précisément on l'aperçoit dans les romans de Melville, s'était retournée contre l'idée même d'émigration universelle et avait systématiquement écrasé ceux qui s'obstinaient à en poursuivre le rêve, c'est-à-dire avant tout les pauvres. Je mordais de mon Big Mac assis sur le tabouret du McDonald's de la porte de Bagnolet et je me disais que Cimino, tout comme Melville, était l'un des noms propres de l'histoire, tout à la fois sanglante et immaculée du daim. Il en était l'incarnation américaine. Il était le daim blanc qui passe effarouché dans la forêt d'Hollywood et qui se retrouve dans le viseur de tous ceux à qui l'idée même de daim sera toujours insupportable. Car Michael Cimino, après avoir triomphé dans le monde entier avec The Deer Hunter, avoir raflé des Oscars et être devenu le nom même, l'incarnation, l'avenir du cinéma américain, avait subi, avec son film suivant, Heaven's Gate, l'un des échecs les plus terribles de l'histoire du cinéma, un véritable désastre qui avait fait de lui tout simplement un paria. Comme Melville, qui avait d'abord connu une gloire facile, puis avait sombré dans l'échec à partir du moment où il s'était mis à écrire « Depuis la vérité », en faisant parler en lui le daim blanc effarouché. Cimino avait approché cette vérité même qu'il y a dans l'échec, et sans doute s'était-il mis à ne plus séparer échec et vérité, à ne considérer la vérité qu'en rapport avec l'échec qui la révèle, comme un daim blanc effarouché qui traverse indemne cette forêt criminelle qu'on nomme l'humanité. Pendant le tournage de Heaven's Gate, Cimino avait fait exploser le budget, comme on dit dans ces cas-là. Et les studios le lui avaient d'autant moins pardonné que le film avait été un échec commercial. Mais je crois que le bannissement de Cimino avait une autre raison, plus profonde. On lui avait tout simplement fait payer ce qu'il dévoilait dans son film, c'est-à-dire la mise à mort des immigrants d'Europe de l'Est par les propriétaires terriens de la jeune Amérique. Heaven's Gate racontait la guerre civile qui avait éclaté en 1890 dans le comté de Johnson, Wyoming, et avait abouti au massacre des populations civiles pauvres venues de Pologne et d'Ukraine par des milices payées par les capitalistes de la région. Ce que racontait le film de Cimino, c'était que l'Amérique, après la liquidation des peuples indiens, avait continué à se fonder sur un programme d'extermination. Et que le capitalisme n'était pas l'expression du rêve de cette jeune nation, mais déjà son cauchemar. Il était évident, du moins à mes yeux, que Michael Cimino m'écouterait parler de mon scénario sans tapoter sur son téléphone, sans penser à son prochain rendez-vous, et qu'il était le seul qui, lorsque je parlerais de la tête de Melville, de l'intérieur mystiquement alvéolé de cette tête, n'éclaterait pas de rire. Car lui-même, Michael Cimino, je le comprenais soudain en avalant un verre de vodka acheté à l'épicerie de nuit de la porte de Bagnolet et souriais tout seul à cette pensée. Lui-même, Michael Cimino, était à coup sûr quelqu'un dont l'intérieur de la tête était mystiquement alvéolé. À partir de cette nuit-là, j'ai repris espoir. Au lieu de raconter à n'importe qui mon scénario, j'ai cessé d'en parler et me suis mis à chercher comment il était possible de contacter Michael Cimino. Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette première lecture du roman de Yannick Enel, « Tiens ferme ta couronne », que nous poursuivrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.